Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Merci beaucoup. Très bien, très bénissant. Nous sommes bénis avec tous ces talents, toute cette musique, tous ces chants. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. J'ai parlé ce matin de la remise des diplômes samedi prochain. Et j'ai mentionné qu'il y a des étudiants qui viennent un peu de partout dans la francophonie. Et j'ai appris que nous avons notre étudiant de Burundi en Afrique qui est ici ce soir pour la remise des diplômes samedi. Je ne savais pas qu'il venait. Je savais qu'on avait un étudiant à Burundi qui fait sa formation par extension. Mais pour une raison ou l'autre, je ne savais pas qu'il avait l'intention de venir à la remise des diplômes. Et j'ai découvert qu'il est ici d'Afrique uniquement pour être là samedi. Alors moi, j'aimerais qu'on puisse souhaiter la bienvenue. Je vais juste le demander de se lever. C'est Gabriel et son épouse de Burundi. Peut-être qu'il peut juste se lever. On aimerait juste les souhaiter la bienvenue de Burundi en Afrique. On est heureux. On les accueille. Je vous souhaite la bienvenue. Très heureux de vous voir. Très belle surprise. Seigneur vous bénisse. Vous savez pourquoi que vous êtes là ce soir? C'est annoncé ce matin, vous êtes là pour découvrir l'essence de la foi, pour apprendre encore davantage au sujet de la foi, parce que vous voulez plaire à Dieu. Combien veut plaire à Dieu ce soir? Hein? Nous avons appris ce matin que sans la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 6, et je vous demandais de regarder dans votre Bible, si vous avez votre Bible, Hébreux chapitre 11, sinon les passages ou les versets vont être sur le PowerPoint. Mais nous avons appris ce matin qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pas qu'il est difficile d'être agréable à Dieu, impossible sans la foi. Peu importe le nombre de réunions qu'on assiste à l'Église, peu importe la vie pieuse qu'on essaie de mener, peu importe la discipline qu'on installe dans notre vie, toutes ces choses-là, sans la foi, ne plaît pas à Dieu. Il est impossible sans la foi d'être agréable à Dieu. C'est un verset qui est important, c'est un verset qui est puissant, significatif. Si nous voulons plaire à Dieu, il faut absolument qu'on pratique et qu'on exprime et on intègre la foi dans notre vie. Comme qu'on a appris ce matin, n'importe qui peut croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est facile. Tout le monde croit en Dieu. Mais pratiquer la foi, c'est une autre chose. La foi n'est pas pour les novices. La foi, c'est pour des héros, des hommes et Dieu qui veulent aller plus loin avec Dieu et qui veulent vraiment voir que leur vie est agréable à Dieu. Parce que la foi, c'est autre chose que seulement croire en Dieu. La foi s'exprime concrètement, tangiblement, visiblement, quotidiennement, on pourrait dire. C'est pour cela qu'on veut découvrir et apprendre c'est quoi l'essence de la foi. C'est pour ça qu'on a mis une journée à part pour apprendre c'est quoi la foi. L'essence, la nature de la foi, la substance qui fait la foi. Comment que la foi s'exprime ou se manifeste dans la vie quotidienne, dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos attitudes. Comment qu'on exprime la foi, une foi qui est agréable à Dieu. Et c'est pour cela qu'on regarde ensemble Hébreux chapitre 11, comme on a dit ce matin, qui est le temple de renommée de la foi. C'est un chapitre renommé au sujet de la foi. En Hébreux chapitre 11, on découvre la définition de la foi. Dans le premier verset, on a la définition de la foi, qui est hors la foi, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On découvre la définition, mais plus que la définition, l'écrivain nous donne des illustrations. Il nous donne plusieurs exemples des personnes qui ont mis en pratique la définition pour nous aider à capter et saisir la signification de la définition. Plusieurs capsules. Bref, portrait ou image. C'est un chapitre qui est vraiment exceptionnel. C'est un peu comme un artiste ou un photographe qui essaie de capter ou capturer dans une image, une photo, quelque chose qui a une signification. Puis on voit que l'écrivain, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il nous donne juste des petites images, des photos, juste un peu l'image et le portrait, mais c'est ça la foi. Dans la vie de Moïse, c'était ça. Dans la vie de Noé, c'était ça. Dans la vie d'Abraham, c'était ça. Dans la vie de Jacob, il nous donne comme une image photographique, si vous voulez, ou artistique. C'est quoi la foi? Sachant qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Alors, on peut avoir toutes sortes d'enseignements puis de principes de la foi et de méthodes de la foi, toutes sortes de définitions théologiques de la foi, mais lui, il sait qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Alors, il nous donne des images qui captent c'est quoi l'essence de la foi. C'est pour ça que ça vaut la peine d'étudier chapitre 11 d'Hébreux et aussi tout l'Ancien Testament et la signification de la vie de ces personnes-là. Il a réussi, l'écrivain sous l'inspiration du Saint-Esprit, a réussi à nous faire comprendre que la foi se manifeste dans les petites choses de la vie, des choses facilement oubliées, inaperçues, autant que dans les grandes choses. Souvent, quand on parle de la foi, on pense à des grandes choses, des grands exploits spirituels qu'on peut faire, la grande puissance, des miracles, des choses extraordinaires. Mais on apprend ici, en Hébreux chapitre 11, que la foi s'exprime dans les petites choses. Un peu comme Rick Warren, il dit, on ne vous demande pas de faire des grandes choses pour Dieu, on vous demande de faire les petites choses pour Dieu. Les petites choses significatives par rapport à l'attitude, à la vie quotidienne, qui manifeste et exprime la foi que nous avons. Puis c'est ce qu'on remarque en Hébreux chapitre 11, que des fois, c'est les petites choses qui, inaperçues souvent, qui font la foi. Et nous voulons fixer notre attention sur un verset dans l'Épître aux Hébreux ce soir et ce matin, un homme, un événement, un portrait, une image qui communique des volumes au sujet de la foi. C'est Hébreux chapitre 11, verset 21. C'est la capsule sur la vie de Jacob. De tout ce que Jacob a passé en travers, il a choisi un événement, un moment à la fin de sa vie. Verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Dans un verset, on découvre trois choses par rapport à l'essence de la foi. La première chose qu'on a pris ce matin, c'est une reconnaissance inébranlable. Mourant, il adora. Mourant, souffrant, il a choisi d'adorer quand même, d'adorer malgré. Une reconnaissance inébranlable, face à l'impossible, face à la mort, face au rejet, face aux défis, face à la douleur, face à la persécution, face à la fatigue, face à l'injustice, peu importe ce qu'on passe au travail, même si on passe au travail l'heure des ténèbres comme Jésus face à la croix, nous avons choisi d'être reconnaissants. Nous allons adorer le Seigneur et rendre grâce, peu importe. Ça, c'est l'essence de la foi. C'est ce que nous avons appris ce matin. Comme l'apôtre Paul nous enseigne, rendons grâce au Seigneur, qu'on rend grâce au Seigneur en toutes choses. Pas pour toutes choses. En toutes choses. Il y a une différence. C'est certain qu'il y a bien des affaires qui arrivent dans notre vie qu'on ne rend pas grâce à Dieu pour ces choses-là, mais on rend grâce au Seigneur en toutes choses, malgré les circonstances, malgré qu'on passe en travers. Alors, l'essence de la foi débute avec quelque chose qui est très faisable. N'importe qui peut pratiquer cette foi-là. Une reconnaissance inébranlable, c'est atteignable pour tous et chacun ici de faire une décision, je vais adorer le Seigneur. Que je passe en travers des grandes choses difficiles et des grandes difficultés, ou même si je passe en travers les mille et un irritations quotidiennes de la vie. Des grandes difficultés, ça arrive de temps en temps dans toutes nos vies. La mauvaise nouvelle, la pression intense, l'heure des ténèbres. Ça arrive de temps en temps. Mais les frustrations quotidiennes, les petites irritations, ça arrive à tous les jours, vrai ou faux? Puis si on ne fait pas attention, c'est comme un cancer qui peut juste manger notre reconnaissance. C'est les petites irritations, les choses imprévues, les mauvaises nouvelles, les petites affaires banales des fois, à chaque jour, qui des déceptions, des injustices, des problèmes au travail, la maison, la famille, tout ça, qui des fois vient éroder notre capacité de rendre grâce au Seigneur, notre joie de vivre, notre spontanéité, notre adoration. L'essence de la foi, c'est de dire que ce soit des grandes choses intenses, difficiles que je passe en travail, ou que ce soit même les petites irritations de la vie. Peu importe ce que je passe en travers, je vais adorer le Seigneur. Je vais regarder et préserver le visage d'un ange. Je vais avoir une grâce et je vais exprimer une reconnaissance envers le Seigneur parce qu'il le mérite, peu importe ce que je passe au travail. C'est des choses que tous et chacun faut pratiquer parce qu'on a toujours des petites irritations. Moi, cet hiver, deux fois cet hiver, mon abri temporaire, mon tempo est parti dans le vent. Vous appris cela? Pas une fois, deux fois. Une fois, en plein milieu de la nuit, 2 heures du matin, ouf, un tempo de 42 pieds parti dans le vent. Toujours attaché à la maison, mais là, dans le vent, comme un monstre de 42 pieds, le vent le pousse contre la maison. Moi, 2 heures du matin, j'essaie de sortir de la maison, je peux pas sortir de la maison parce que le tempo est poussé contre la maison. 2 heures du matin, j'ai des choses à faire le matin, la police arrive, moi je suis là à l'extérieur en train de traîner le tempo comme ça, 2 heures du matin, la police est là, il faut absolument qu'on débarrasse puis on l'enlève avant que ça parte pour faire le dommage dans d'autres voisins. Ça c'est une fois pendant la nuit, et c'est même pas moi qui ai installé le tempo. C'est une compagnie qui l'a installé. Deuxième fois, dans le jour, un après-midi, ça se donne c'est un lundi après-midi, j'étais à la maison. Ouf! Encore c'est parti, et cette fois-là, c'est arraché de la maison, et là, ça part dans la rue. Tempo de 42 pieds parti dans la rue, dans le vent. Alors moi, je cours à l'extérieur de la maison, puis là, moi, je tiens le tempo comme ça. 42 pieds de tempo qui est poussé par le vent dans la rue, et me voici à essayer de tenir le tempo pour la deuxième fois. Puis je ne pouvais rien faire, parce que si je laisse le tempo aller, là, ça va endommager toutes les autos, les voisins, et toutes leurs maisons et tout ça. Mais si je me tiens sur le tempo, moi, je partais dans le vent. Alors, un après-midi comme ça, en train de tenir avec toutes mes forces un tempo de 42 pieds, moi, j'étais parti pour faire du deltaplane involontaire. Je lui dis, vous aurez pu, quelques minutes de plus, vous aurez pu voir Pasteur Mark passer au-dessus du brassard sur un tempo parti dans le vent, comme ça. Je partais dans le vent. C'était comme un parachute. Jusqu'à temps qu'un de mes voisins sort, puis là, lui, il prend l'autre, un côté, moi, je prends l'autre côté, puis nous, les deux, je suis comme ça, là, qui est en train de faire du deltaplane avec le tempo, puis on peut même pas lâcher, puis on peut rien faire. Deux autres voisins qui ont sorti, puis là, on a réussi à 5 hommes le tenir et le défaire, déchirer et tout ça. Puis moi, j'ai dit, plus jamais des abris temporaires. Moi, je sors la pelle. Qu'elle veut pas, mon épouse va pelleter l'hiver prochain. Tous les hommes disent... On appelle ça les irritations de la vie. Comme si j'ai besoin de ça. L'argent que ça coûte, le dommage que ça fait à la maison, qu'il faut payer 2 fois, les dommages que ça fait aux autos, qu'il faut payer 2 fois, le problème, le temps, négocier avec la compagnie qui veut pas payer le tempo, c'est même pas moi qui l'ai installé. En plus, la gêne puis l'embarras, les voisins qui disent, là, le voisin qui est pas capable d'installer un tempo, 2 fois ça part au vent. Puis ils savent pas que c'est pas moi qui l'ai installé. Les irritations de la vie. Nous passons tous en travers des choses, des grandes choses. C'est certain, c'est pas grand-chose à la lumière de la vie, mais ça fait partie de la vie, ça. On a toutes des histoires qu'on peut raconter, des choses qui ne font pas notre affaire, des déceptions, des malchances, des malheurs, des choses qu'on n'attendait pas que ça arrive dans la vie. C'est des irritations, c'est des frustrations, des fois. Puis c'est ces petites affaires-là qui peuvent facilement venir manger à l'intérieur et enlever un peu la joie puis le bonheur et tout ça, parce que, alors, il faut faire ça, puis il faut payer ça, puis il faut ça, puis c'est pas correct. Puis là, la colère qu'on a, la compagnie qu'on a installée, puis dire, pourquoi qu'ils font l'enfer? Toutes sortes d'émotions qu'on peut vivre. Ça, c'est normal. C'est typique à la vie, ça. On a tous des histoires comme ça qu'on passe en travers à chaque semaine, à chaque jour. Mais l'essence de la foi veut dire, peu importe des grandes choses, des petites choses, que ça fait mon affaire ou ça fait pas mon affaire, que ça coûte cher, ça coûte pas cher, peu importe, je vais rendre grâce au Seigneur. Mes enfants, mon épouse, mes amis ne méritent pas la colère, la frustration que je dégage, l'irritation, déception, culpabilité, pitié de soi. Ils méritent la grâce, une action de grâce, une reconnaissance pour savoir que tout ce qu'on passe au travail est passagère et un jour, l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'y aura pas d'abri temporaire. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Grande chose, petite chose, ça c'est l'essence de la foi. D'adorer Dieu quand tout va bien, c'est pour des novices. C'est facile ça. D'adorer le Seigneur après des miracles, tout le monde le fait. Mais d'adorer le Seigneur avant des miracles, de rendre grâce au Seigneur pendant que ça va mal, pendant qu'on a des difficultés, face à la mort, ça c'est l'essence de la foi. C'est ça qui fait la différence entre la foi et une croyance, une simple croyance. N'importe quel croyant adore le Seigneur, puis applaudit, puis se réjouit quand ça va bien. C'est une tendance naturelle de l'homme. Mais une reconnaissance inébranlable, ça, ça fait l'essence de la foi. C'est une foi qui capte l'attention de Dieu. C'est une foi qui impressionne Jésus. C'est une foi qui est exprimée, qui n'est pas naturelle. C'est surnaturel, c'est de dire, j'ai choisi d'adorer le Seigneur, d'être reconnaissant, de rendre grâce au Seigneur avant le miracle comme après le miracle, avant que j'aie la réponse à la prière comme après la réponse à la prière. C'est une reconnaissance inébranlable. Atteignable et réalisable pour tout le monde. C'est la première chose qu'on apprend dans ce verset, ce petit portrait et image et photo donné de Jacob. La deuxième chose qu'on apprend, c'est non seulement qu'il avait une reconnaissance inébranlable, mourant, il adora, mais la deuxième chose qu'on apprend, c'est qu'il avait une dépendance irrévocable. Une dépendance irrévocable. Ça nous dit, Jacob appuyé sur l'extrémité de son bâton. Pour quelqu'un qui fallait être sélectif, il y a toute la vie de Jacob à raconter, il faut qu'il soit très sélectif, très attentionné, sélectif dans ses paroles. On a l'impression que l'écrivain inclut un détail banal, inutile. Pourquoi qu'il nous parle d'appui sur son bâton? Ça semble être inutile comme détail. Qu'est-ce que le bâton a à faire avec la foi? Le bâton signifiait une dépendance qui était permanente et irrévocable, une dépendance à vie, parce que la foi est exprimée non seulement par une reconnaissance inébranlable, mais également par une dépendance qui est permanente, qui est irrévocable, une dépendance sur le Seigneur. C'est la réalisation que nous sommes dépendants sur lui pour la vie. La foi est une conscience que nous sommes rien qu'humains et nous avons tous désespérément besoin de Dieu en tout temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'écrivain inclut le bâton dans son histoire, dans son écrit, parce que ça nous fait rappeler de notre histoire dans la vie de Jacob. C'est la foi que Jacob a lutté avec Dieu lui-même, comme décrit en Genèse chapitre 32. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder avec moi Genèse chapitre 32. Sinon, ça va être sur le PowerPoint. Ici, nous avons l'histoire de la raison pourquoi qu'il appuyait sur son bâton. Pourquoi que le bâton était dans le portrait à la fin de sa vie. C'est à partir de ce moment, en Genèse 32, Quand Jacob a une rencontre divine et puissante avec Dieu, c'est à partir de ce moment-là que Jacob a besoin de son bâton. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, et voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se demit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea et dit, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appelait ce lieu du nom de Peniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passait Peniel, et Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Imaginez, lutter, un homme qui lutte avec Dieu et gagne. C'est quelque chose, ça. Lutter avec Dieu et Dieu te permet de gagner. Il a reçu ce qu'il voulait. Remarque qu'est-ce que ça dit ici. Quelle bénédiction, quelle rencontre avec Dieu. Ça dit, tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Il l'a béni là. Il a reçu une bénédiction. J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Il a reçu ce qu'il voulait. Il a reçu la bénédiction. Il a reçu une révélation de qui Dieu est face à face. Il a gagné une influence avec Dieu et avec les hommes. Il a reçu la touche de Dieu. Il a reçu un changement dans sa vie et dans sa destinée. Il a sorti de cette rencontre vainqueur. N'est-ce pas ça que nous cherchons tous? Qui n'aimerait pas une expérience comme ça ici? D'être béni, changé, transformé. De rencontrer Dieu, de sortir d'une rencontre avec Dieu, vainqueur avec Dieu et avec les hommes, d'être transformé, d'avoir un changement dans notre vie et notre destinée, d'avoir une influence avec Dieu et les hommes. N'est-ce pas ça une belle description d'un homme de Dieu? N'est-ce pas ça une belle image de la foi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'était un homme de la foi. Il reçoit la bénédiction. Il reçoit un changement. Il est vainqueur avec Dieu et les hommes. Selon nous, on dirait, ça, c'est l'image de la foi. Ça, c'est un héros de la foi. Moi, j'aimerais avoir une foi comme Jacob, qui est capable d'obtenir la bénédiction de Dieu et gagner avec Dieu et avec les hommes. Mais la chose remarquable ici, c'est malgré l'impact qu'il avait avec Dieu et avec les hommes, malgré la touche de Dieu sur lui, malgré la bénédiction qui a changé sur sa vie, l'écrivain inclut même pas la bénédiction dans son histoire. L'écrivain de l'Hébreu chapitre 11, il ne parle pas du fait qu'il a lutté avec Dieu. Il ne parle pas de la bénédiction qu'il a reçue. Il ne parle pas du changement qu'il a obtenu de la part de Dieu. Il dit rien à propos de cela. Même dans le texte qu'on a lu, en Genèse chapitre 32, avez-vous remarqué quelque chose de vraiment remarquable? Avez-vous remarqué dans le texte même, la chose qu'Israël a choisi de se souvenir n'était pas sa spiritualité, c'était pas son succès, c'était pas sa divinité, c'était pas sa bénédiction, c'était pas Jacob vedette avec Dieu, mais c'était son humanité. C'était le fait qu'après cette grande rencontre avec Dieu, Jacob boitait de la hanche. Israël a choisi, ça nous dit, c'est à partir de ce moment-là, Jacob boitait de la hanche et Israël ne mangeait point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Ça veut dire qu'ils ont gardé comme mémoire, comme souvenir, comme rappel, le fait qu'après cette grande rencontre, la seule chose qu'ils gardaient en souvenir, c'est que Jacob boitait de la hanche. Ils ont choisi de se souvenir de sa dépendance irrévocable et permanente, que Dieu a permis que Jacob lutte avec lui, mais quand Jacob a sorti de sa rencontre avec Dieu, il sortait pas en disant, me voici, le grand homme de Dieu, vedette avec Dieu, mais il sortait, il boitait de la hanche. Il était très, très conscient de son humanité, de sa dépendance. Et qu'est-ce qui a frappé Israël? Et qu'est-ce qui a frappé l'écrivain aux Hébreux en chapitre 11? C'était pas le grand succès de Jacob, mais c'est le fait qu'à la fin de sa vie, il avait encore son bâton parce qu'il était encore dépendant. C'était une dépendance irrévocable et permanente. Et ma prière, c'est Seigneur, crée en nous. Sers-toi de n'importe quelle façon qu'il faut, mais sers en nous une dépendance totale, irrévocable et permanente sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'essence de la foi, c'est pas seulement obtenir des choses dans la prière, mais c'est d'être conscient que nous sommes dépendants sur Dieu. Il est Dieu, nous sommes hommes et nous avons besoin de lui. Est-ce que je peux entendre amen à cela? C'est une dépendance qu'il a remarquée. Une dépendance sur Dieu. Il dépendait sur lui. Oui, il a reçu la bénédiction. Il a persévéré. Il a même retenu Dieu quand Dieu voulait partir. Mais une chose que Dieu voulait que Jacob oublie jamais, c'est que Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Ils ont gardé ça en mémoire, le peuple d'Israël, afin qu'on n'oublie jamais qu'on peut obtenir et devenir des grandes choses avec l'aide de Dieu. Il est possible de lutter avec Dieu et obtenir la bénédiction. On peut obtenir l'onction. On peut obtenir des changements. Dieu nous invite même à lutter avec lui. Il nous invite à obtenir la bénédiction, comme Pasteur Claude a prêché avec persévérance, avec audace. Il nous invite à le faire. Il nous invite à devenir des hommes de Dieu, comme Jacob. Mais pendant tout cela, qu'on n'oublie jamais qu'on n'est rien que des hommes quand même. Et on n'est rien sans Dieu. Et ça, ça mérite un amen. Peu importe la bénédiction, peu importe le succès, peu importe la spiritualité, peu importe les miracles, peu importe la façon que Dieu entreprend pour nous, nous sommes toujours dépendants sur lui. Qu'on n'oublie jamais que sans Dieu, nous n'avons rien. Jacob a compris. Je suis peut-être un homme de Dieu, mais je suis un homme quand même. Malgré mes succès spirituels, je suis dépendant sur Dieu et je vais toujours demeurer dépendant. Jacob a sorti de cette rencontre conscient, non de sa bénédiction, mais de sa faiblesse. Il a sorti de la rencontre avec Dieu non conscient de son succès ou la puissance ou la bénédiction, mais conscient de son humanité. Sa dépendance sur Dieu, sa faiblesse, puis il boitait depuis. Quand il est sorti, c'est pour ça que la canne est ici en avant, vous voyez? C'est bien gentil de Dan Ritten qui est ici en train de chanter, puis il a vu la canne qui était là, puis il l'a mis en arrière. Mais là, il est ressorti. Chaque matin, quand Jacob se réveillait le matin, à chaque matin, quand il se réveillait, il était conscient de son humanité. Il était conscient de sa faiblesse. Il était conscient qu'il boitait de la hanche. Et à chaque matin, il fallait qu'il aille chercher son bâton. Je ne suis pas certain que c'était un bâton comme ça. C'était peut-être plus grand, le bâton, afin qu'il puisse l'appuyer dessus. Mais à chaque jour de sa vie, à partir de ce moment-là, il fallait qu'il traîne le bâton. Il traîne le bâton comme signe et symbole de sa dépendance, de son humanité, de sa faiblesse. Et partout où il allait, il traînait le bâton avec lui parce qu'il boitait de la hanche. Et c'est pour ça que l'écrivain, il inclut en Hébreux chapitre 11, il inclut que même à la fin de sa vie, il fallait qu'il s'appuie sur son bâton pour emmener la bénédiction. Parce que jusqu'à la fin de sa vie, il avait une dépendance. Et c'était une dépendance permanente. C'était une dépendance irrévocable. C'était une dépendance à chaque matin. Il se réveillait, ça prend mon bâton. Parce que sans le bâton, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas continuer. Et ma prière, c'est Seigneur, crée en nous une dépendance irrévocable et permanente qu'à chaque matin, quand on se réveille, on dit, je ne peux pas sans mon bâton, sans mon appui. Et notre appui est peut-être pas un bâton fait en bois, mais notre appui, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est la présence du Saint-Esprit. J'ai besoin de Jésus-Christ dans ma vie, qu'on puisse avoir cette dépendance, qu'à chaque matin, on se réveille et dire, je suis un être humain, j'ai besoin de Dieu dans ma vie, et qu'on recherche le moment de prière et dit, Seigneur, sans toi, je peux rien faire. J'ai peut-être la bénédiction de Dieu et des succès dans ma vie, et je te rends grâce pour ta provision, mais j'ai toujours besoin de toi. Que ce soit 20 ans que vous êtes dans l'Église, que vous êtes un chrétien depuis des années, que vous avez de succès dans votre vie spirituelle, qu'on n'arrive jamais à un moment que nous n'avons pas besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Qu'à chaque matin, on va chercher le bâton et dire, j'ai besoin du Seigneur Jésus-Christ, je suis complètement et entièrement dépendant sur lui. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? L'extrémité, le bâton, la dépendance, s'appuyer sur le Seigneur, c'est ce qu'il y avait à chaque matin. Il boitait depuis. Il fallait prendre son bâton pour jamais oublier qu'il était un homme qui boitait. Il était un homme handicapé. Comment dire, mais Pasteur Marc, est-ce que Dieu, c'est ton béquille? C'est ce qu'on entend des fois. Ah, oh, Dieu, c'est juste votre béquille. Mais c'est certain. C'est ça qu'on dit, béquille? Béquille? Dieu est juste votre béquille. Puis c'est certain que Dieu est ma béquille ou mon béquille? Ma béquille. Jocelyn m'induit en erreur. Dieu est ta béquille. C'est certain que Dieu est ma béquille. Parce que sans Dieu, je tombe. C'est certain, on ne fait pas d'excuses pour dire ça. Dieu est ma béquille, il est mon ambulance, il est mon hôpital, il est le civière, il est tout ce que j'ai besoin. Parce que sans Dieu, je suis rien. Je m'appuie sur lui comme Jacob appuyait sur son bâton. Ça, c'est l'essence de la foi. C'est une dépendance totale, permanente et irrévocable. Un peu comme l'apôtre Paul, qui avait des révélations du troisième ciel, qui avait vécu des choses inexprimables, mais il avait toujours l'épine dans la chair pour son orgueil, pour garder humble. Deuxième Corinthiens, ça vaut la peine, je vais le lire pour vous. Deuxième Corinthiens 12, 7, quand ça dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » C'est la même chose que Jacob. L'apôtre Paul a dit, « J'ai eu des révélations incroyables. J'ai eu des révélations du troisième ciel, des choses que je ne peux même pas exprimer ouvertement. Dieu m'a béni d'une façon incroyable, mais il dit, je boite de la hanche, l'apôtre Paul dit. J'ai dit, cette épine dans la chair, j'ai ces messagers de Satan, j'ai quelque chose qui ne va pas dans ma vie, j'ai demandé que le Seigneur l'enlève et Dieu a dit, je ne l'enlève pas parce que je ne veux pas que tu sois enflé d'orgueil. Je ne veux pas, Paul, que tu arrives à une place où tu as perdu ta dépendance. Alors, à chaque jour, il est était conscient de sa faiblesse, l'apôtre Paul, et c'était une forme d'humilité pour lui et de dépendance. Et même l'apôtre Paul, à chaque jour, il fallait saisir son bâton et appuyer sur son bâton parce que c'était quelque chose-là pour garder la dépendance, l'humilité, qu'on a besoin du Seigneur. Des fois, le plus grand faveur que Dieu peut nous donner, c'est d'être certain que notre vie n'est pas idéale et parfaite et le paradis sur la terre. Des fois, on pense que c'est une malédiction, on pense que c'est vraiment quelque chose qui est mauvais et qui n'est pas une bonne nouvelle, mais savez-vous que des fois, le plus grand faveur que Dieu peut faire pour vous, c'est de faire comme qu'il a fait avec Jacob. C'est juste de nous faire boiter de la hanche. C'est de nous toucher d'une façon où ce n'est pas idéal. On a des belles choses, des bonnes choses, des grandes bénédictions, mais notre vie n'est pas toujours parfaite. La raison pour ça, c'est pour nous garder dans la prière, pour nous garder sur nos genoux, pour être certain qu'on est dépendant sur Dieu, on a toujours besoin de lui. Seigneur, donne-nous une dépendance irrévocable et permanente, parce que ça fait l'essence de la foi. C'est ce qu'il a fait avec Jacob. C'est ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. C'est ce qui a remarqué l'écrivain des Hébreux. Il faut être certain que tout n'est pas idéal en tout temps. C'est une grâce que Dieu nous fait pour exercer notre foi. C'est pour cela que l'auteur du livre aux Hébreux l'inclut dans sa description, qu'il appuyait encore sur son bâton, encore dépendant, encore conscient de sa faiblesse, son humanité, sa rencontre avec Dieu. Comprenez quelque chose? Quand on sort d'une rencontre avec Dieu, d'avoir lutté avec Dieu, d'avoir obtenu la bénédiction, quand on sort le lieu de la prière où ce que Dieu nous a visité, pensez-vous qu'on sort avec arrogance? Avec orgueil? Hein? Regarde-moi. Hein? L'homme de Dieu. Remarquable. Vedette. Confiance en soi. Non. Quand on a une véritable visite de la part de Dieu, on ne sort pas avec orgueil et arrogance, une pseudo-confiance, mais on sort avec une humilité, conscient de nos faiblesses, notre dépendance. Des fois, quand Dieu a fini avec nous, oui, on a reçu la bénédiction, mais on boite de la hanche, parce qu'on est très conscient de notre faiblesse et notre humanité, et comment que nous avons besoin de Dieu. On peut savoir si quelqu'un a vraiment rencontré Dieu par l'humilité qui dégage et non l'arrogance. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Dieu est grand, je ne suis pas, j'ai besoin de lui. Quand on sort d'une rencontre avec Dieu, on est conscient que tout homme boite à quelque part, moi aussi, et que je peux tomber à n'importe quel instant sans l'aide de Dieu. 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Comme Jacob avait besoin de son bâton, chaque matin, je devrais être conscient que j'ai besoin de Dieu. La prière, la parole, les amis, l'Église. Parce que celui qui pense être debout, capable, arrivé, succès, qui prenne garde. La personne qui néglige la prière jour après jour après jour, pensant que je suis arrivé, je suis capable sans Dieu, qui prenne garde. Celui qui pense être arrivé, qui prenne garde de tomber. L'essence de la foi, c'est une dépendance irrévocable. Même après des années de service, même après des années de la vie spirituelle, même après des années de la vie chrétienne, peu importe le succès qu'on peut connaître, on n'est jamais arrivé, on est toujours en route. On entend souvent les gens dire, « Dieu peut se servir des gens ordinaires. » Mais moi, je dis, « Dieu se sert seulement des gens ordinaires. » Pas « Dieu peut servir des gens ordinaires », il se sert seulement des gens ordinaires, parce que dès qu'on est extraordinaire, on cesse d'être utilisable. Si l'essence de la foi, c'est de savoir que je suis très ordinaire, très humain, peu importe ce que les gens peuvent dire à notre sujet, on a besoin de Dieu. Je suis dépendant sur lui à tous les jours. J'ai besoin de la prière et la parole dans ma vie, que je prenne garde de penser que moi, je ne peux pas tomber. J'ai besoin du Seigneur. On est très, très ordinaire. On entend souvent aujourd'hui, il faut croire en toi-même. Believe in yourself. T'es capable. Trouve la force à l'intérieur de toi. Mais la Bible dit le contraire. La Bible ne dit pas « crois en toi ». La Bible dit « crois en Christ qui est en toi ». Et sans lui, nous pouvons rien faire. Moi, je ne veux pas croire en Pasteur Mark. Moi, je veux croire en Dieu. Parce que sans lui, je ne suis rien. T'es capable. Non, je ne suis pas capable. Je suis capable seulement par Dieu. Tu as la force à l'intérieur de toi. Moi, je n'ai pas la force à l'intérieur de moi. Moi, j'ai la force à l'extérieur de moi. Et ma force, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Il faut que j'aille chercher la force, non à l'intérieur de moi, mais à l'extérieur de moi, parce que je suis dépendant sur Dieu. Ce n'est pas moi qui ai la force, c'est Dieu qui a la force. C'est Jésus qui vit en moi, c'est par son Esprit que je marche, non selon mes forces, mais les forces que Dieu communique. N'est-ce pas ça merveilleux que la vie chrétienne et le succès et la foi ne dépendent pas sur la force à l'intérieur de vous? C'est pas parce que vous êtes capable et vous pouvez le faire et ça vient pas d'une croyance en vous, ça vient d'une croyance en Jésus-Christ, ça vient de la force que lui donne, ça vient de quelque chose à l'extérieur de nous où ce que nous pouvons aller chercher sa force à tous les jours et le Seigneur nous donne la force pour marcher victorieuse et vainqueur dans la vie aujourd'hui. N'est-ce pas ça une bonne nouvelle? Ça vient pas de l'intérieur, ça vient de l'extérieur. C'est l'essence de la foi, c'est cette dépendance irrévocable. Comme Jésus avait, que foi après foi après foi, jour après jour, avant des grandes décisions puis après des grands succès, il se retrouvait à l'écart pour prier, parce qu'il avait une dépendance totale sur son Père, pour sa force, pour sa sagesse, pour ses conseils, pour sa direction. Comprenez quelque chose ce soir. Un des plus grands actes de foi que nous pouvons faire, un des plus grands actes de foi que nous pouvons démontrer, c'est de prier. La prière, c'est un acte de foi, parce que ça démontre une dépendance totale, irrévocable. J'ai besoin de Dieu. C'est très simple. Manque de prière égale manque de foi. C'est aussi simple que ça. Une vie sans la prière est une vie vécue dans l'arrogance, pertinence, orgueil. Quand on ne prie pas, c'est parce qu'on réalise, on ne réalise pas qu'on boite, on ne réalise pas qu'on est handicapé sans Dieu. Mais l'essence de la foi, c'est d'aller chercher notre bâton à tous les jours et dire, sans la prière, sans l'aide de Dieu, je ne peux pas arriver. C'est de consulter le Seigneur. Ça, c'est l'acte de foi. C'est la plus grande foi. C'est de prier. Moi, je ne parle pas des prières répétitives, des prières mémorisées qu'on connaît par cœur parce qu'on fait la même prière à chaque jour. Moi, je ne parle pas juste des listes de prières qu'on fait à tous les jours jusqu'à temps qu'on arrive au dernier point, puis là, on sort. Moi, je ne parle pas je parle pas de la prière un peu rigide, religieuse et froide et inefficace. Moi, je parle de la prière authentique où ce qu'on rentre dans notre lieu de prière pour invoquer la présence de Dieu, pour connaître les pensées de Christ, pour demander à Dieu, c'est quoi ses conseils de conduire nos pas aujourd'hui, de nous aider à témoigner, à évangéliser, être sensible aux gens attristés tout autour de nous, d'avoir les yeux ouverts et les oreilles sensibles à ce que les gens disent. C'est de demander le conseil de Dieu. Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Comment que je peux t'aider aujourd'hui? Conduis mes pas. Pourvois pour moi, Seigneur. Comment que je peux bénir quelqu'un? J'ai besoin de toi. Aide-moi à résister à la tentation. Aide-moi à être un bon mari, une bonne femme, un bon père, une bonne mère. Aide-moi à être un bon employé, un bon patron. Aide-moi à répandre la bénédiction aujourd'hui. Moi, je parle de la vie de prière qui est dépendante sur Dieu, qui se fie sur Dieu, qui cherche l'aide de Dieu à tous les jours pour vivre, pour décider, pour parler, pour prendre des décisions. Le Seigneur est là pour vous. Le Seigneur veut vous guider et bénir et fortifier. Il veut vous donner des conseils. Il veut répondre à vos questions. Il veut vous aider à prendre des bonnes décision. Il veut vous bénir dans la maison et dans votre travail et à l'église et dans votre ministère. Vous avez toute la force du ciel à votre disposition. C'est l'arrogance de penser qu'on peut faire tout seul car nous avons tout le ciel qui est là pour nous. Mais à chaque matin, il faut aller chercher le bâton et dire, Seigneur, je suis ici très dépendant sur toi. Sans toi, je peux rien faire parce que je suis handicapé sans toi. Et quand on prie ces prières-là, le Seigneur, il va nous bénir, il va nous rendre des vainqueurs, il va changer notre vie et notre destinée, il va nous donner des succès, mais on va marcher avec humilité et dépendance qui est irrévocable et permanente. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça, c'est la prière qui compte. C'est la prière de dépendance. J'ai besoin de toi, Seigneur. Vous savez comme moi, On a juste à vivre une ou deux jours dans la société aujourd'hui, puis on est frappé par notre manque. On est frappé par la complexité des problèmes et des situations que les gens passent en travers. On est frappé par le fléau démoniaque d'obsession, d'addiction, de dépendance, de pornographie, de divorce, de problèmes familiaux, des gens tourmentés. On a juste à vivre une ou deux ou trois jours sans la prière, puis on est conscient tout de suite comment qu'on peut rien faire aujourd'hui sans l'aide de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais juste un couple de jours dans la société aujourd'hui. Juste à voir ce qui se passe avec la jeunesse, avec les jeunes, avec les enfants, dans la famille, dans la ville, à l'école, dans les universités. Juste ouvrir nos yeux un peu pour nous frapper comment qu'on a besoin de Dieu. Est-ce qu'on pense qu'on peut le faire nous-mêmes? Non, mais nous pouvons tout faire par le Seigneur. L'essence de la foi, c'est quelque chose qui est atteignable. C'est quelque chose qui est réalisable. Ce n'est pas pour les super spirituels, les grands héros de la foi, de la parole de Dieu. C'est pour les personnes très normales, comme vous et comme moi, qui ont juste très conscients de leur handicap et leurs besoins de Dieu, qui chaque matin vont aller chercher le bâton et dire, « Seigneur, je comprends que je suis un être humain, je suis un simple homme et femme, et j'ai besoin de toi dans ma vie. » Combien sont dépendants sur Dieu ici ce soir? Avez-vous une dépendance sur Dieu? Êtes-vous conscient que vous ne pouvez rien faire sans Dieu? Est-ce qu'on est conscient qu'on a besoin de lui à tous les jours? Est-ce qu'on va aller chercher l'appui à tous les jours, comme Jacob qui appuyait sur le bâton? Est-ce qu'on appuie sur le Seigneur à tous les jours? Je vais vous demander si vous êtes dépendant sur le Seigneur. Si vous avez ce cri en vous, au secours, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de direction pour ma vie, j'ai besoin de conseils, Seigneur, j'ai besoin de toi. Si c'est votre prière, je vais vous demander de vous lever où est-ce que vous êtes et juste lever vos mains vers le Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir un moment de prière ici ce soir? Je veux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis complètement et entièrement dépendant sur toi. Je peux rien faire sans toi. Seigneur, crée en nous une dépendance irrévocable, une dépendance permanente, une dépendance qu'on va traîner à tous nos jours, Seigneur. Crée en nous une dépendance qui va jamais disparaître avec les années, Seigneur. Ça va juste croître, ça va augmenter notre désir pour ta présence, notre désir pour l'appui spirituel. On a besoin de l'Église, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de la famille de Dieu, j'ai besoin de la parole de Dieu. Je peux rien faire sans Dieu. Moi, j'aimerais qu'on puisse arrêter juste là. Le troisième point, il y a un troisième élément qu'on voit là qui a à faire avec les mains croisées, mais on va faire ça pour un autre moment. Moi, j'ai goût d'arrêter juste là pour qu'on puisse pratiquer les choses qu'on a entendues. Que ça donne de prêcher sur une dépendance irrévocable sur Dieu sans le mettre en pratique. Sans vous donner la chance à répondre, sans laisser le Saint-Esprit sceller ça dans nos cœurs et dans nos vies. Si l'humilité, c'est pas dire, oui, je suis capable, j'ai la force en moi, je crois en moi, j'ai tout ce que j'ai. Ça, c'est pas la foi, ça. La foi, c'est de dire, je ne suis pas capable sans Dieu. J'ai besoin de Dieu. Mon problème, c'est un problème de péché. Et j'ai besoin de la repentance. Je suis handicapé dans un domaine de ma vie. J'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est l'humilité qui est l'essence de la foi. L'essence de la foi, puis les hommes de la foi, c'est ceux qui vont aller chercher l'aide dans le jeûne et dans la prière. Comme notre pasteur d'un 21 jours de jeûne et prière. Ça, c'est la foi, parce que ça démontre et exprime une dépendance sur Dieu. On n'est pas capable sans toi, Seigneur. On va jeûner, on va prier, on va aller chercher l'appui de toi, parce que sans toi, on tombe. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre dans cette société perverse, pornographique, sensuelle, où est-ce que le péché abonde? Est-ce que vous pensez, les messieurs, que vous pouvez vivre pur dans cette société sans l'aide de Dieu? Est-ce que vous pensez que vous pouvez? Est-ce qu'il est possible, sans l'aide de Dieu, l'appui de Dieu. Si à chaque matin qu'on se réveille, on prenne garde. Peu importe qui nous sommes, que ça fait des années que vous êtes dans l'église, on prenne garde. Et c'est possible que moi, je t'en... Moi, je ne veux pas être la prochaine victime. Moi, je ne veux pas être la prochaine victime de l'ennemi. Moi, je ne veux pas perdre mon témoignage. Moi, je veux être un héros de la foi. Mais la foi héroïque débute avec des moments de prière, avec des cris de dépendance, avec des gens qui vont aller chercher l'appui de la part du Seigneur. Combien ont besoin du Seigneur ici ce soir? Combien vit une dépendance sur le Seigneur totale et permanente? Moi, je vais vous demander, si vous voulez que le Saint-Esprit scelle qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui, si vous voulez que le Saint-Esprit mette dans votre cœur une reconnaissance inébranlable et que le Saint-Esprit mette dans votre cœur une dépendance irrévocable, je vais vous demander, on va passer juste un moment de prière à l'autel. Si c'est votre prière, je vais vous demander juste de quitter votre place et juste venir ici en avant. Trouvez une place ici à l'autel. Si c'est votre cri, si vous voulez prier. Moi, je vais prier que le Saint-Esprit puisse sceller dans nos cœurs. On a besoin d'un moment à l'autel. On a besoin d'un moment pour chercher la face de Dieu. Venez, trouvez une place ici en avant. Levons nos mains, nos voix vers le Seigneur. Et dis, Seigneur, j'avance parce que je suis dépendant sur toi. Crée en moi une dépendance, Seigneur, irrévocable. Crée en moi une dépendance qui va crier vers toi tous les jours. Je veux appuyer sur tes Écritures. Je veux appuyer sur la parole. Je demande pardon pour mon arrogance. Je demande pardon pour mon orgueil. Je demande pardon pour la négligence des moments de prière. 15 minutes de prière chaque jour, 20 minutes à chaque matin. Est-ce qu'on peut donner une demi-heure de notre matin au Seigneur juste pour invoquer son aide, juste pour aller chercher notre bâton, juste pour aller chercher notre canne? Est-ce qu'on peut donner quelques instants de notre journée pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi au travail. Aide-moi à la maison. Aide-moi à l'école. Aide-moi en vacances. Aide-moi dans le voisinage. Aide-moi, Seigneur, dans mon foyer. Aide-moi à être un homme de Dieu. Aide-moi à pratiquer la foi. Quelques instants où est-ce qu'on va aller chercher notre appui. Jacob, à la fin de sa vie, l'a s'appuyé encore sur le bâton. Il n'avait pas oublié ce que Dieu a fait pour lui. Oh Seigneur, on est ici ce soir avec une dépendance totale sur toi. Une dépendance sur toi. Levons nos mains, nos voix vers le Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir un moment de prière? Crie envers le Seigneur et dis, Seigneur, au secours. Avec humilité, on crie au secours ce soir. Au secours pour nous. Au secours, Seigneur, pour nous. Remplis nos cœurs de la foi. Fais de nous les hommes et les femmes qui expriment l'essence de la foi. Au secours, Seigneur, on prie au secours.
Bon de l'amour, voici devant toi, te demander.
Vous pouvez chanter, vous pouvez prier. Fais ce que vous voulez, mais laisse le Saint-Esprit agir dans votre cœur. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit veut souffler dans votre cœur. Nous avons une force à l'extérieur de nous qui va nous aider. Va chercher cette force dans la présence du Seigneur. Souffle sur nous, c'est notre prière, chantez-le. J'ai besoin de toi.
Oh Dieu, envoie un souffle.
Donne-nous une reconnaissance inébranlable. Donne-nous une dépendance irrévocable par ton Saint-Esprit, c'est notre prière. Chantez-le.
Bon Dieu d'amour, me voici devant toi.
Demeurons en sa présence.
Je le
Seigneur est ici. Laisse le Saint-Esprit agir dans votre vie. Laisse le Saint-Esprit sceller son âme. Sa parole, une action de l'esprit dans votre vie. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau. Là, j'aimerais qu'on reçoive le souffle nouveau. On l'a chanté, là, on veut le vivre. Juste pendant que la musique joue doucement en arrière, moi, j'aimerais qu'on lève nos mains, nos voix vers le Seigneur et qu'on demeure en sa présence. Ne regardez pas vers moi, regardez vers Jésus. Regardez vers le Seigneur. C'est lui qui baptise de son esprit. C'est lui qui est le conseiller merveilleux. C'est Jésus, par son esprit, qui fait le travail dans votre cœur. C'est lui qui va ranimer notre foi et l'emmener à la perfection. C'est lui qui est l'initiateur de notre foi. C'est lui le chef de notre foi. Laisse le Seigneur faire son travail. Demeure en sa présence. Demeure dans un moment de prière. Laisse le Saint-Esprit sceller, ancrer la parole dont je suis. Laisse le Saint-Esprit brûler dans le fond de votre intérieur, l'essence de la foi, la réalité de la parole de Dieu, la réalité de ses promesses. On demeure en ta présence. Seigneur, par ton esprit agis. Seigneur, on soit en arrière ou sur le vent. Seigneur, agis dans ce sanctuaire. Seigneur, remplis nos cœurs. Seigneur, fais une différence dans nos vies. Change-nous comme l'a changé Jacob. Change notre nom. Change notre destinée. Change, Seigneur, notre situation. Change mon cœur. Change ma vie. Brise, Seigneur, les habitudes. Brise des chaînes de péché. Libère, délivre, guéris, encourage, rafraîchis. Fais un travail par ton Saint-Esprit, Seigneur. Bénis la crainte. Bénis l'activité démoniaque, Seigneur. Bénis les mensonges. Libère les captifs. Guéris les malades. Restaure, Seigneur, les cœurs brisés. Un point tournant, une nouvelle vision. Fais de nous les hommes et les femmes de la foi, des héros de la foi. Qu'on capte l'essence de la foi, Seigneur. Entre nous, Seigneur, pénètre notre cœur avec les vérités, Seigneur, de ta parole. Écris un chapitre sur notre vie. Écris, Seigneur, quelque chose à notre sujet. Que ce soit une réalité quotidienne. Qu'on puisse la porter, Seigneur, à l'extérieur de l'Église. Qu'on puisse la porter avec nous à la maison, au travail demain matin, à l'école. Qu'on puisse, Seigneur, porter, transporter. Ta gloire et ta présence. Exprimer la foi à l'Église comme à la maison, comme au travail, en public, en privé. Exprimer l'essence de la foi, une foi qui est agréable à toi. On veut que ça soit scellé dans la prière. On crie vers toi avec une dépendance entière et totale. Hey yo! J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour marcher pur aujourd'hui, pour résister à la tentation, pour avoir la force, Seigneur, à témoigner, pour avoir le courage, pour avoir la sagesse, pour être un gagneur d'âme, pour avoir la créativité, Seigneur. J'ai besoin de ta compassion dans mon cœur. Que tu bénis le froid et l'indifférence. Donne-moi un cœur qui brûle d'amour, un cœur qui brûle de compassion, un cœur qui dégage la grâce, un cœur qui dégage, Seigneur, l'amour, qui dégage la reconnaissance, l'action de grâce et l'adoration. Terminant le chant qu'on a chanté ce soir, ranime la flamme. Ranime la flamme de la foi. Ranime la flamme de la reconnaissance. Ranime la flamme de la dépendance. La raison pourquoi je veux chanter ce chant, c'est parce que quand on a chanté ce soir, j'ai remarqué qu'il y a un verset qui parle de la dépendance. Qu'on est conscient de notre faiblesse. On est conscient de notre dépendance. On est conscient de notre humanité. Ma prière, c'est qu'en chantant ce chant, par ces moments qu'on a passés dans la maison de Dieu aujourd'hui, dans une journée sanctifiée, mise à part pour Dieu, ma prière, c'est que la flamme du Saint-Esprit peut juste brûler la reconnaissance dans nos cœurs et une dépendance irrévocable. Savez-vous, c'est quoi ma prière pour vous? C'est que Dieu fait quelque chose dans votre vie, comme avec Paul, comme avec Jacob. Que Dieu fait quelque chose pour votre bien, pour votre malheur, votre bien, qui va créer cette dépendance permanente, irrévocable. Qu'à chaque jour, vous allez juste prier, demander de l'aide, la grâce de Dieu, sa sagesse et sa force. Seigneur, crée en nous l'essence de la foi. Une foi qui est agréable à toi, Seigneur. Puis à partir de ce moment, quand vous passez un moment qui n'est pas agréable, quand vous passez une affliction, une injustice, une mauvaise nouvelle, une exclusion, négligence, manque d'appréciation, la douleur, l'heure des ténèbres, au moment du découragement, vous avez un choix à partir de ce moment de pratiquer la foi ou faire comme tout le monde fait. Murmurer, critiquer, déprimer, décourager, abandonner, bouder, fâcher, colérique, irrité, vous dire non, ça c'est le moment pour pratiquer la foi. Alors je vais lever la tête vers le ciel et je vais rendre grâce au Seigneur. Et je vais crier, « Au secours, Jésus, je suis complètement et entièrement dépendant sur toi. » On a le choix de pratiquer la foi ou d'ignorer la foi. Mais à partir de ce moment, on est sans excuse. Mais si nous voulons être des héros de la foi, si nous voulons capter l'attention de Christ, si on veut qu'il s'élève comme qu'il est fait avec Étienne, comme qu'on a pris ce matin, si nous voulons être agréables à lui par notre foi, on va prendre une reconnaissance inébranlable, puis une dépendance irrévocable à chaque jour de notre vie, marcher avec humilité et dépendance. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Seigneur, ranime la flamme de la reconnaissance et la dépendance dans mon cœur pour me donner une foi qui est agréable à toi. Chantez ce chant tous ensemble avant qu'on termine. Est-ce qu'on peut le chanter? Chantez-le comme une prière. On va laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Que ce soit un point tournant, Seigneur. Une dépendance irrévocable. Une reconnaissance, Seigneur. Inébranlable à partir de ce moment.